Radio Déclic.
Encourager la fraternité. C'est pas quelque chose qu'on peut vivre chaque jour.
Radio Déclic. Radio Déclic. Radio
Déclic. On aime découvrir d'autres cultures.
Ce sont des messages qu'on fait passer.
Fréquence Paris Pluriel 106.3. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on vous propose d'écouter une émission spéciale de l'association HF Île-de-France en partenariat avec le réseau MAP, réseau des musiques actuelles à Paris, sur la question des femmes dans la musique. Une émission enregistrée en public au FGO Barbara de Paris qui nous a gracieusement accueillis. On retrouve donc au micro de Natacha Leroux quatre invités pour parler de cette question. L'artiste musicienne Dieuvela Etienne, Héloïse Bouton, Emilia Santana et Adrien Chiquet.
Alors, nous avons choisi d'aborder la question de l'égalité homme-femme dans une perspective transcontinentale, car il nous semble intéressant pour avancer sur ces questions d'égalité de mettre en miroir la situation française avec celle d'autres régions du monde où il se passe des choses formidables. Donc, notre table ronde d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de cette saison égalité musique actuelle que HF Île-de-France a lancée il y a de ça 2 mois avec le RIF, le réseau des scènes musique actuelle en Île-de-France, Opal, Arcadie et également la FEDELIMA, la Fédération des lieux de musique actuelle au niveau national. Donc, ce dispositif de la saison égalité s'adresse aux acteurs et aux actrices du secteur des musiques actuelles qui souhaitent être en phase avec leurs valeurs et convictions en matière d'égalité pour véritablement tenter d'actualiser ce principe d'égalité de façon pérenne dans leur pratique professionnelle. Car nombreux d'entre nous sommes convaincus que le secteur laisse des compétences et des talents féminins sur le bord de la route aujourd'hui. Que ce secteur prive ainsi le public d'œuvres et de représentations diversifiées et novatrices, et en cela, on pourrait dire plus globalement, porte préjudice à la dynamique musicale en France. Effectivement, on peut constater aujourd'hui que ce secteur culturel des musiques actuelles est le secteur artistique finalement le plus désœuvré en matière d'égalité homme-femme. Les métiers effectivement de compositeurs et instrumentistes sont parmi les plus masculinisés des professions d'artistes aujourd'hui en France. Et on peut véritablement affirmer que la musique que nous écoutons est une expression artistique presque exclusivement créée, composée par des artistes masculins. Et pourtant, les filles, on le sait, forment un vivier important dans les écoles de musique en France. Elles sont même majoritaires. Elles sont plus de 55%. Elles commencent plus tôt la musique et sont donc amenées à bénéficier d'une plus grande technicité de fait. Alors, nous avons choisi de nous concentrer aujourd'hui, dans le cadre de cette table ronde, à la question de la présence de ces femmes musiciennes sur les scènes musicales et sur leur parcours de professionnalisation ici et dans le monde. Alors, si vous le voulez bien, j'aimerais que nous traversions l'Atlantique et que nous écoutions l'expérience formidable de l'artiste Dieuvela Etienne. Donc, Dieuvela Etienne, vous êtes dramaturge, musicienne et compositrice à Port-au-Prince, en Haïti. Vous êtes également fondatrice du groupe Simbi Roots, un groupe avec lequel vous êtes actuellement en tournée en France et plus particulièrement dans la région Rhône-Alpes. Vous présentez un spectacle musical qui s'intitule « Devant la croix de Baron Samedi », un spectacle qui fait voyager le public dans l'univers des rituels vaudous. Vous êtes très connue, entre autres à Haïti, pour avoir créé le premier groupe de rara féminin en revisitant cet art musical populaire haïtien, donc le rara. Non seulement vous contribuez à ce que la forme de musique traditionnelle rara devienne l'expression d'un art en mouvement et soucieux d'égalité, mais vous en renouvelez également les formes musicales mêmes. Vous n'hésitez effectivement pas à y mêler la danse, le chant, le théâtre musical et maintenant avec votre dernier clip, l'électro. Simbi Roots s'apparente aussi à un centre de formation pionnier qui offre gratuitement à ses membres des cours de percussion et forme aux arts de la scène. Et finalement, Dieu veut là, vous avez inventé et mis en place un véritable dispositif innovant d'insertion professionnelle spécifique pour les musiciennes. Donc c'est ce parcours de fondatrice du Rara Féminin à Haïti, de Simbi Roots, c'est toute votre expérience que l'on souhaiterait connaître aujourd'hui ici.
Merci, bonsoir Natacha, bonsoir à tous et à toutes. Je suis vraiment contente et fière d'être autour de cette table et pour parler de la musique des femmes et personnellement de Simbi Roots. En fait, j'ai fondé Simbi Roots en 2005 à Port-au-Prince. Sa première dénomination fut Rara Femme, qui littéralement veut dire Rara Femme. Le rara est une forme, un genre musical populaire haïtien proche de la fanfare. La spécificité de Simbi Roots était d'être un orchestre rara entièrement féminin. Car au sein des raras traditionnels, on ne retrouvait que des hommes comme musiciens. L'avènement de Simbi Roots, entre parenthèses Rara Femme, dans le paysage musical haïtien fut une petite révolution. Simbi Roots, appelé à l'époque Rara Femme, fut le premier du genre en Haïti, comme l'a bien mentionné Natacha. Ce qui nous a créé pas mal de persécutions. Pendant nos premières années, on a eu beaucoup d'intimidations psychologiques, violences verbales, complots divers, boycottage de nos sonorisations, des réserves vis-à-vis de notre musique, donc ce n'était pas du tout facile. Mais grâce à notre résistance, une résistance qui s'est manifestée à travers notre constance, notre persévérance dans le travail, et à travers nos actions à la fois sociales, politiques, artistiques et de communication, nous avons fini par nous imposer dans le secteur culturel. Cela n'a pas été facile, car tout d'abord, les artistes du groupe de Simbi Roots, il fallait les former, car les femmes percussionnistes n'existaient pas sur le terrain, puisque la pratique de la percussion était l'apanage des hommes, bien entendu. Du coup, avec l'atelier Totobé, une association que je gère en même temps que Simbi Roots, j'ai dû mettre en place un espace de formation des femmes à la percussion et aux arts de la scène. J'ai ouvert cet atelier permanent de formation artistique sans but lucratif. Aucune cotisation n'était exigée de la part des bénéficiaires, aucun prêt acquis musical ou artistique n'était demandé non plus. L'accès à cette expérimentation était donc totalement démocratique. Et j'ai fait ce travail sans jamais recevoir un sou des gouvernements de mon pays. J'ai dû me battre quasiment toute seule pour assurer la pérennité, maintenir et développer l'expérience entamée. Alors, au sein de Simbi Roots, je construis une œuvre à la fois artistique, je pourrais dire aussi sociétale et féministe. L'artistique est primordial car c'est la capacité à plaire, à émouvoir un public qui fait avant tout le charme d'un groupe musical et qui donne sens à son existence. Et notre point fort à nous, c'est d'avoir récupéré le rara, les rythmes vaudous et de les réinventer à notre manière. Au sein de Simbi Roots, nous marions la musique, la percussion à la mythologie vaudou, à la mise en scène, aux arts visuels. Nous contribuons ainsi à la sauvegarde et à la revalorisation des traditions et imaginaires culturels haïtiens qui tendent le plus souvent à se perdre. L'aspect sociétal là-dedans, c'est que en exploitant une richesse haïtienne qui est le patrimoine immatériel, nous arrivons à créer de l'emploi, à offrir une image plus positive du pays, à engendrer plein d'opportunités profitables à des citoyens et citoyennes du terroir. On dit que le travail est féministe, oui, parce que Simbi Roots offre une image non stéréotypée des femmes. Avec Simbi Roots, qui a fini par créer des émules, par son acceptation dans le milieu, la pratique du rara au féminin est devenue un mouvement national, un nouvel outil d'expression de la lutte des femmes pour leur émancipation.
Oui, on pourrait presque dire que, enfin, si on voulait créer justement dans cette vision un peu transcontinentale des femmes et la musique, moi j'ai presque envie de faire une filiation avec le mouvement Rare Girls aux États-Unis qui, d'une toute autre façon, hein, mais quand même s'est emparé aussi d'un style musical, le punk, se l'est approprié. on a changé les formes, a donné de nouveaux contenus sémiologiques et musicaux à cette musique. Là, on a envisagé aussi la pratique musicale comme un outil d'émancipation et a connu finalement, introduit un courant, un véritable courant musical, et puis a connu un développement économique important. Donc on voit que dans un autre contexte, avec une autre forme de musique, vous êtes aussi dans cette démarche de se réapproprier la musique, la rendre hybride, la décliner d'une autre façon, en créant un véritable courant, puisque Dieu veut là, vous me disiez que vous avez sémé dans le pays et que vous avez fait des émules et un certain nombre de groupes se sont créés également et donc se sont inspirés de votre démarche, vous ont vraiment pris comme modèle.
Effectivement. En effet, la musique rara, en étant une musique traditionnelle, issue du milieu rural, elle n'était pas très accepté par le monde savant de la musique. En fait, en Haïti, on se prêtait beaucoup plus aux gens les plus répandus dans le monde, comme le jazz, le hip-hop, etc. Donc, c'est une tradition qui se perdait. Alors, au sein de Symbiout, nous avons eu le courage de reprendre cette forme et de la faire accepter par l'élite culturelle, par tout le monde. Je dois dire aussi, la musique rara étant attachée au vaudou, et comme il y a beaucoup de personnes qui attribuent, qui associent le vaudou à la sorcellerie, du coup, il y a eu pas mal de mauvaises perceptions de cette forme. Et ça a été vraiment une charge très lourde pour nous de récupérer cette musique et de changer les perceptions vis-à-vis d'elle. Ça n'a pas été facile, mais nous n'avons pas baissé les bras vis-à-vis des intimidations, vis-à-vis des manques de compréhension. Au contraire, nous l'avons prise et nous avons travaillé. Et par rapport à nos sensibilités artistiques, par rapport à nos émotions, notre imaginaire, mon imagination, j'ai pu en faire une forme artistique. Nous avons passé de la tradition vers une forme artistique, une forme exprimant de l'innovation, de la liberté et une richesse créative. Et c'est ça qui nous a permis de percer, de nous faire accepter, d'être aimés, d'avoir des contrats déjà dans le pays, et en plus de, par exemple, venir en France aujourd'hui.
Et quel a été l'accueil du public français à vos spectacles?
Là, nous avons travaillé un spectacle intitulé « Devant la croix de Baron Samedi » que nous avons présenté. Ça a été vraiment très apprécié, très aimé. On a eu beaucoup, beaucoup de compliments, beaucoup de félicitations. C'est un spectacle musical qui fait un rassemblement de chants, de danse et de rythmes vaudous appartenant à l'univers des guédés. Les guédés, ce sont des esprits outre-tombe dans l'imaginaire haïtien. Donc, nous avons créé ce spectacle à notre manière, tout en fusionnant différentes formes. Et ça a donné un très bon résultat. Ça a été vraiment très apprécié.
Et je crois que vous m'expliquiez, Dieu veut là, que déjà dans le vaudou, il y a cette question du genre qui est quand même présente aussi, que finalement les dichotomies binaires ne sont pas si évidentes que ça dans le vaudou et permet aussi une réflexion sur le genre et l'égalité homme-femme, d'une certaine façon.
Dans le vaudou, il y a une forme d'acceptation de la femme. La présence féminine est très forte dans le vaudou, bien qu'on n'a pas les femmes à la percussion. Car dans les cérémonies vaudou, il y a une forte présence des percussions. On a beaucoup d'hommes à jouer les percussions. Par contre, nous avons beaucoup de femmes dirigeantes de cérémonies vaudou, et les femmes sont très bien respectées dans le vaudou. C'est, on dirait, un monde de femmes. Et le vaudou communique bien cette liberté que nous essayons de nous accaparer, cette liberté, cette émancipation que nous cherchons à travers le travail qu'on fait. On la retrouve très bien dans le vaudou, car c'est une culture. Avant d'être une religion, c'est une culture très tolérante, très ouverte à tous, que ce soit, quel que soit son choix sexuel, son orientation sexuelle, son genre, ou quelle que soit la personne, eh bien, dans le vaudou, on a une place, on est toujours la bienvenue. Et dans le vaudou, les femmes dirigent sans discrimination. Déjà, je dois vous dire, dans le vaudou, il y a les prêtres et les prêtresses, et chaque personne a son nom en créole. Le prêtre, on l'appelle Ougan, et la prêtresse, on l'appelle Mambo. Et ça déjà prouve qu'il y a une place pour les femmes dans le vaudou.
Bonsoir, j'ai une question pour la première intervenante. Donc, c'est pure curiosité. J'avoue que le rara dont vous parliez tout à l'heure, je ne connaissais pas jusqu'à présent. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mais du coup, je suis très, très curieuse et j'aurais bien aimé savoir à quoi ça ressemble. Vous n'auriez pas un petit...
Oui, bien sûr.
Quelque chose à...
Il y aura une démonstration tout à l'heure.
OK.
Mais pour présenter le rara avec des mots, c'est une musique retentissante, entraînante, très chaleureuse, jouée avec des instruments typiquement traditionnels. Donc, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une tradition populaire. Et c'est une forme de musique proche du carnaval, de la fanfare. Donc, du coup, on va avoir une démonstration tout à l'heure et vous allez découvrir que c'est une musique très haïtienne, jouée avec des cornets. Les cornets, ce sont de longs tubes métalliques, mélodiques. On ne les trouve pas en Afrique, on les trouve en Haïti. Et avec le tam-tam et puis d'autres instruments qu'on appelle cloche, on a le bambou, on a le kachapouf, l'ogan, etc. Donc, les sons vont venir.
Hot pepper. It's a celebration of hot pepper.
À l'écoute de l'émission Radio Déclic sur FPP 106.3, vous venez d'écouter le titre « Groove au piment » de l'artiste haïtienne Diovella Etienne du groupe Simpy Roots. On retrouve la suite de l'émission sur la question des femmes et de la musique, animée par Natacha Leroux de l'association HF Île-de-France.
Je vais m'adresser maintenant à Héloïse Bouton. Donc Héloïse, vous êtes connue comme militante féministe. Aujourd'hui, vous vous consacrez à votre site Madame Rap, qui est le premier site à mettre en lumière les femmes dans le hip-hop, tout en, vous le dites vous-même, célébrant le rap en général, les féminismes, l'art et les cultures urbaines. Vous faites un travail, on peut le dire, incroyable de recensement des rappeuses dans le monde entier, même dans des endroits que l'on n'imagine pas. Alors aujourd'hui, en France, le rap est une expression musicale majeure, hein, Mais finalement, depuis la percée de Diams, la présence des rappeuses reste très marginale. Et finalement, on constate que malgré l'important maillage structurel des musiques actuelles en France et des équipements de loisirs, où il s'est développé, les femmes qui rappent sont étonnamment peu nombreuses, ou tout du moins invisibles dans ces lieux. En revanche, et étonnamment, on découvre justement en allant sur votre site que, eh bien, il existe de nombreuses rappeuses dans les Amériques. Moi, je pense par exemple aussi à un groupe de rappeuses qui s'appelle Las Crudas, qui déjà en 1996 créé à La Havane, à Cuba, un groupe queer et vegan. Donc, une tendance qui est encore inconnue en France, hein, puisque et qui est pourtant très à la mode dans de nombreux pays. Et en 2005, même à La Havane, elle crée le premier collectif de rappeuses de Cuba. Tous ces exemples là, de rappeuses un peu partout dans le monde forcent à nous poser un peu la question, que se passe-t-il ici ? Et en dépit de l'existence d'Internet, certains programmateurs nous disent qu'ils ne connaissent pas de projets musicaux de rappeuses. Alors, qu'est-ce que vous leur répondez, Héloïse, et qu'est-ce que vous leur conseillez, puisque visiblement, il faut leur donner des conseils pour les trouver?
Je leur réponds qu'ils sont d'une grande mauvaise foi, puisqu'il suffit de taper dans Google « rappeuse France » pour quand même avoir des résultats. Donc, c'est que pour moi, il y a soit une flemme, soit une volonté de copier la programmation existante à côté, de faire comme le concurrent, et comme le concurrent a eu cet artiste, il faut nous aussi l'avoir, ou du moins essayer de l'avoir. Et du coup, il y a cette espèce d'entre-soi et de copier-coller permanent, où il n'y a jamais l'originalité qui est mise en avant. Donc aujourd'hui, malheureusement, une femme dans le rap, ça reste une originalité encore pour les programmateurs, je pense. Donc déjà, je leur conseillerais peut-être juste d'aller chercher sur les réseaux traditionnels. Après, également, d'aller chercher sur des réseaux peut-être un peu moins traditionnels. Je sais que nous, par exemple, avec Madame Rap, on en trouve beaucoup sur Facebook, juste avec le hashtag rappeuse, ou qu'on peut décliner dans plein de langues quand on cherche dans d'autres langues. Mais voilà, tout simplement, oui, il y a plein de femmes qui ont des pages où elles s'auto-définissent comme des rappeuses, donc on peut les trouver. Pareil sur la plateforme SoundCloud, où avec pareil le système des mots-clés, des hashtags, on peut retrouver des rappeuses ou femmes rap, ou voilà, pareil, selon les langues, on peut en trouver plein. Et puis après, c'est aussi d'essayer de faire passer le message. Et quand on dit à des gens qu'on cherche des rappeuses, bah, tout d'un coup, on vient nous dire « j'en connais ». Moi, il y a la sœur d'une copine qui a une copine qui, voilà. Enfin, et tout d'un coup, il y a des gens qui viennent à nous et il suffit de le dire qu'on en cherche pour en trouver. Donc, je pense aussi que si les festivals ou les programmateurs de salles disaient, enfin, rendaient visible leur volonté de mettre en avant des femmes ou au moins tout simplement de les inclure au même titre que les hommes dans leur programmation, ils en trouveraient sans aucun problème. Puisque nous, on n'a vraiment pas beaucoup galéré pour en trouver. On en a plus de 1100 dans le monde entier. Et en France, on en a plus de 60. Donc, voilà, il en existe.
Et donc, quel est votre projet, donc, Madame Rapp, si vous pouvez nous en parler un petit peu plus, les développements, ce que vous faites actuellement?
Alors, initialement, c'était donc juste un Tumblr lancé en septembre 2015 qui visait juste à prouver qu'il y avait des femmes dans le rap. Donc, au début, on avait juste 300. Et c'était un peu un contre-pied à plusieurs choses, puisque moi, dans le milieu féministe, le rap est très mal perçu. Et c'est un peu perçu comme un antagonisme absolu d'être militante féministe et d'aimer le rap. Et souvent, on me disait... soit tu es une traîtresse à la cause, soit tu es un peu débile et tu n'as pas compris que les paroles, c'était super sexiste. Et je disais, non, je comprends très bien. Et donc, j'avais envie de montrer la contradiction de ça et comment on apprenait à avancer avec cette contradiction. Puisque pour moi, ça l'a été plus jeune de me dire, en effet, j'aime le rap qui est quand même misogyne, qui est quand même homophobe. Et en même temps, je suis militante féministe ou en tout cas, j'ai envie de défendre la voix des femmes. Et en même temps, de dire un contre-pied aussi à tous ces gens qui me disaient « il n'y a pas de femmes dans le rap ». Donc, c'était leur montrer qu'il y en avait. Donc, au début, voilà, c'était juste recensé. Et puis, au fur et à mesure, en fait, j'ai été rejointe par une DJ qui s'appelle Emeraldia Ayakashi, qui est une amie à moi, que j'avais rencontrée sur un autre projet de compilation contre les violences faites aux femmes, qui m'a dit « mais moi, je peux t'aider à faire vivre le projet ». Et elle qui est vraiment tout l'aspect production artistique, l'aspect aussi design du site, c'est elle qui crée tous les visuels, etc. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment une compétence qui me manque, donc on est très complémentaires là-dessus. Et on a commencé à mettre en lumière des rappeuses du monde entier en les interviewant tout simplement en français, en anglais, pour qu'il y ait une plus grande visibilité. Et après, on s'est dit, c'est quand même un peu dommage, on aimerait bien aussi organiser des événements. Donc de là, on a commencé à organiser, on a fait déjà un événement à la Mutinerie en octobre dernier, qui s'est super bien passé, avec des rappeuses internationales, une du Costa Rica, une des États-Unis, une française, un open mic ouvert à des rappeuses amatrices. Bon, ça a vraiment été un grand succès, cette soirée. Et vraiment, le but aujourd'hui, à terme, en tout cas, c'est vraiment d'ouvrir un label Donc voilà, de signer des femmes, de programmer des femmes, de booker des femmes, c'est vraiment ce qui manque. Et quand on regarde un peu, il y a mais rien du tout en la matière en France. Enfin, pour moi, c'est assez fascinant parce que en plus, bon, forcément, comme j'aime le rap, je regarde beaucoup vers les États-Unis. Et voilà, là-bas, il y a des choses qui existent depuis la fin des années 80. Enfin, faut voir que une femme comme Sylvia Robinson, qui est une des toutes premières productrices de rap aux États-Unis, elle a lancé Grand Master Flash, par exemple, ou Rapper's Delight, enfin des titres comme ça. Enfin, et elle était là, c'était une espèce de papesse du hip-hop dans le Bronx, voilà. Enfin, et ça remonte à combien d'années ? Je veux dire, c'est quand même dingue qu'en France, il n'y ait jamais eu ça derrière, surtout que j'ai l'impression qu'on a souvent tendance à critiquer les États-Unis, mais à faire comme eux finalement 10 ans après. Donc là, on devrait être dedans, on devrait avoir des Missy Elliott, des Lauryn Hill, des Nicki Minaj, mais on n'en a toujours pas en fait. Donc il y a un vrai point d'interrogation, je ne comprends pas.
Oui, c'est le même souci avec le mouvement Riot Girls. C'est-à-dire que ce mouvement-là n'a pas eu non plus les développements en France qu'il a eu aux États-Unis. Donc effectivement, il y a un problème, quoi, on peut le dire. Alors en quoi... D'après vous, c'est important de faire la promotion de ces rappeuses et aussi, encore une fois, c'est un peu la même question que je posais à Dieuvela. En quoi pensez-vous qu'elle renouvelle les narrations musicales et textuelles et en cela, en quoi c'est important de les promouvoir ?
Je pense que c'est important de les promouvoir parce qu'elles elles ont des discours pluriels et que comme c'est quand même une contre-culture, hein, c'est une musique à la base politique, c'est une musique à la base de revendications, même si ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias traditionnels, c'est évidemment pas le rap le plus conscient qui existe, c'est un rap commercial, marketing, où il n'y a plus vraiment de message et qui a perdu un peu de son essence. Mais toutes ces femmes, moi, que je rencontre ou que j'écoute, comme elles sont encore sur un circuit indépendant, elles sont vraiment, enfin, ce message est inhérent à leur musique, donc elles disent des choses qui dérangent. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas envie de les promouvoir et de les inclure dans le mainstream, puisqu'elles parlent de leur sexualité, elles parlent de leur plaisir, elles parlent de leurs conditions de femmes dans des banlieues, elles parlent des violences faites aux femmes, elles parlent de sexisme au quotidien, elles parlent de tout ça, en fait. Et ça, je pense que... Déjà, en général, c'est un discours qui dérange. Mais en plus, quand il est produit par des personnes racisées, des personnes qui sont peut-être, oulala, musulmanes, parce qu'il y a ça aussi le problème, j'en parlais avec des rappeuses britanniques qui s'appellent Poetic Pilgrimage et qui, elles, sont converties à l'islam. Et par exemple, parce qu'à côté, je suis journaliste, et en proposant ce sujet dans des médias, on me dit, bah non, les rappeuses musulmanes, c'est un peu trop, quoi. Faut choisir. Et là, c'était voilà, faire une photo... dans un article avec deux femmes voilées qui font du rap et qui sont en plus dans quelque chose d'extrêmement politique, qui se revendiquent de Malcolm X, d'Angela Davis, etc. Je pense qu'aujourd'hui, en France, en tout cas, moi, je n'ai pas réussi à l'intégrer. Donc, ces discours-là sont importants parce que c'est... pour moi, déjà, ils s'inscrivent complètement dans le hip-hop, c'est-à-dire le côté très authentique de raconter juste son quotidien, d'être un reflet de notre société. Et en même temps, parce que ce sont des formes de contre-discours aussi.
Merci beaucoup.
Ballistic Maker, DJ Camo, c'est Katia, yeah. Tibi DJ. Le silence est toujours loin d'être un oubli. Un tatou sous l'épiderme, bien qu'éphémère est la coup. Veine après la gifle, prends tes boules qui est ses fils. Shit, tout comme sur le clavier, yeah fuck that shit. Ma tête et mon corps déambulent sans énergie. Avalé par les kraken, je craque. Craquet, échantillon de liberté dans le rêve, mais pas dans l'action. Je mets l'accent sur mes cinq sens et j'avance. Force est de ne plus croire en l'absence. Depuis que je m'accepte, je n'ai plus de carence. Pour garder la cadence, c'est intense. Mais quand je pense à ma liberté, l'arrivée se rapproche. Yo, personne peut me mettre un stop, sauf moi-même, et je suis pas soft shot. Aucune chance à mon ombre shot. La négativité en plein front purifie la pièce et la lumière transperce le plafond. Eh, c'est quelle époque ça? Si je peux, je troque ça contre un voyage spatial, vu qu'ici tout est fucked up. Tous détox, chaque humain cherche sa torche, car t'es à l'aise avec ton côté sombre qu'avec l'accroche, car trop de stars traumatisent, trop de couches t'assomatisent, trop de rage et de flammes que la somatise. Trop de cistes à vivre dans l'ombre, mais pourtant sont artistes. Je vais pas m'empêcher de vivre, ça excite, c'est sexiste. Dérangé, concaté, s'exprime sur un simple beat. Parce que j'ai plus de couilles qu'un groupe de 16 types. J'pose mon style sur toute prod pendant que toi tu bégayes. Couteau suisse capable de prendre du rock, du rap ou du reggae. Ma défense se renforce et je fonce. Mate les ans et le sang s'entrelace dans un flot comme celui-là. Soit tu te noies, soit tu te bousilles. Pancréas dans les faces que je place te dépasse. Forgé dans le baobab, j'ai perdu mes racines. Depuis la première fois que j'ai entendu des racistes, j'parle universel, par l'unique verset qui passe par l'univers. De cette force, j'suis muni, j'espère. Donner encore à ce hip-hop multisecteur qui se replie sur lui-même. Certains sont presque des mini-secteurs. Moi j'accepte l'évolution, mais pas le foutage de gueule. Que tu sois un ancien ou juste un type qui teste. T'entends tes retours, mais ça te dérange pas de balancer des idiots. Si espèce d'imbécile, c'est que ces bêtises vont se retourner contre toi. 2017 dans deux mois, et si on compare toutes ces décennies de combat, c'est triste, on dirait qu'on compte pas. Love à mes forcenés qui maîtrisent le compas. Casse tous les cercles vicieux, change de regard sur le constat. Plusieurs corps, un grand cœur, toutes couleurs en contraste. L'être humain évolue, la vie et lui revoit le contrat.
Vous venez d'écouter Catégorique avec son titre Contraste.
C'est toujours sur Radio Déclic,
hey. 106.3.
Bien maintenant, je voudrais me tourner vers Imira Santana. Donc, vous êtes brésilienne, musicienne, violoniste. Et également, vous êtes en France parce que vous réalisez votre thèse de doctorat à la Sorbonne. Et vous travaillez actuellement sur une thèse sur les femmes instrumentistes au XVIIIe siècle. Alors pourquoi nous avons-vous invité aujourd'hui à cette table ronde ? Parce que vous avez bien sûr ce regard transcontinental, hein, mais en particulier, surtout, parce qu'on voulait avoir un regard un peu historique, finalement, aussi sur la musique, parce que c'est intéressant de voir au niveau latéral, mais de voir aussi un peu au niveau horizontal aussi, qu'est-ce qui a pu se passer. Et du coup, vous allez nous révéler une réalité totalement méconnue, sinon occultée, de l'histoire de la musique en France et de la place des femmes dans la musique en France. Sachant que, il faut le rappeler quand même, aujourd'hui, on ne compte que 8% de femmes instrumentistes professionnelles dans les musiques dites populaires. Et même, on tombe à 5,4% d'instrumentistes programmés dans une récente étude du RIF sur 15 lieux de musique actuelle en Île-de-France.
Bonsoir à toutes et à tous. Et pour reprendre justement cette histoire de 5%, 8%, aujourd'hui, en musique dite savante, les orchestres, on a quand même 30% des femmes instrumentistes, ce qui paraît pas mal, même si on est loin de la parité. Mais il faut dire quand même, presque jamais, elles tiennent des postes de solistes au sein d'un orchestre. En fait, un soliste sur cinq est une femme. Et donc, ça, c'est pour aujourd'hui. Et je vais justement vous essayer de vous expliquer comment les choses se passaient dans le passé. Et donc, je remonte au XVIIIe siècle. Pourquoi justement le XVIIIe siècle ? Même si les femmes ont fait toujours de la musique, qui ont toujours joué des instruments, c'est au XVIIIe siècle que les musiciens professionnels, comme un groupe, a commencé à s'éloigner des musiciens amateurs. Car à cette époque, il était courant qu'un musicien amateur partage le pupitre d'un orchestre avec un musicien professionnel. Et cette situation commence à changer à partir de la croissante difficulté du répertoire qui a été composé. Comme pour aujourd'hui, le XVIIIe siècle avait aussi des catégories de musique qui étaient plus acceptées pour les femmes ou non. Aussi, comme il y avait des instruments, il y avait des catégories genrées d'instruments. Donc, si une femme voulait se consacrer à la musique, elle pouvait devenir une chanteuse ou une pianiste. Mais, en principe, la pratique d'autres instruments, tels que le violon et la flûte, était déconseillée. Les arguments, surtout, c'était que, pour certains instruments, la posture qu'on doit tenir pour jouer faisait que les femmes perdent leur charme. Ou aussi les arguments pourraient être l'image phallique de certains instruments, là en l'occurrence des instruments avant. Mais quand même, à partir de mon travail, j'ai découvert qu'il y avait quand même quelques femmes qui étaient devenues des instrumentistes professionnelles. Et je vais parler donc de deux groupes, soit les concertistes, soit les femmes gagistes d'orchestre. Au XVIIIe siècle, il y a eu à Paris une institution de concert qui s'appelait le concert spirituel. On donnait des concerts les jours des fêtes religieuses. Le répertoire était composé évidemment de musique religieuse, mais aussi de musique instrumentale. Cette institution a existé pendant 65 ans, de 1725 à 1790. Et les femmes instrumentistes, elles ont commencé à se présenter en 1735. On pourrait penser que la première femme qui s'est présentée était une pianiste, puisque c'était l'instrument qui était permis aux femmes. Mais non. En fait, la première femme à se présenter au concert spirituel était une flûtiste. En plus, le concert spirituel a compté aussi avec deux autres flûtistes et une femme joueuse de cor de chasse qui ont fait toutes les trois des carrières internationales, ont joué en Allemagne, en Italie et en Angleterre. Le concert spirituel était une référence européenne pour la musique de concert et donc les musiciennes et musiciens étrangers venaient en France pour se présenter. Et les Françaises et Français qui se présentaient avaient aussi plus de chances de se faire entendre à l'étranger. Et c'est pour ça probablement que ces femmes ont réussi à se faire entendre ailleurs. Je passe aux femmes, des femmes joueuses des instruments dans des orchestres. Justement, c'était une activité utilisée pour définir un musicien professionnel au XVIIIe siècle. Évidemment, la plus grande partie des femmes instrumentistes n'a jamais appartenu à un orchestre, mais au milieu du XVIIIe siècle, on avait des femmes dans l'orchestre de la musique du roi. Donc, il y avait trois joueuses de viol de gambe. Aussi, comme à Lyon, dans l'orchestre du théâtre de Lyon, il y avait deux femmes violonistes. Bon, je pourrais parler encore d'autres femmes, d'autres orchestres. Je cite seulement un orchestre en Allemagne qui a employé, depuis le début du XVIIIe siècle, deux femmes trompettistes. Donc, comme on voit, il y avait pas mal de femmes qui jouaient d'autres instruments que les pianos, qui est surtout considéré l'instrument féminin par excellence. Bon, pour conclure, je passe au XIXe siècle pour montrer comment la situation a basculé et comment les femmes, elles ont été plutôt interdites de jouer certains instruments, puisqu'il a commencé une professionnalisation institutionnalisée, on va dire. Donc, comment on a créé le Conservatoire de Paris en 1795, les femmes, elles furent interdites d'accéder aux classes d'autres instruments que les pianos. À partir du moment où on a créé un diplôme pour professionnaliser les musiciens, on a exclu les femmes. Certes, aujourd'hui, l'institutionnalisation, elle peut aider les femmes parce que, à partir de certaines études, les femmes, elles ont plus de chances de devenir une musicienne professionnelle dans un pays où l'enseignement, il est institutionnalisé. Or, elles ont dû, avant de progresser, elles ont dû reconquérir un espace qui a été perdu tout au long du XIXe siècle. Je crois que j'ai fait déjà une petite résumé d'une histoire qui est en fait assez complexe, parce que je n'ai pas parlé de plusieurs autres instruments que les femmes ont joué au XVIIIe siècle et qui ont été interdites de jouer au XIXe.
Oui, effectivement, c'est intéressant parce que de voir que déjà au 18e, il y avait des femmes trompettistes, alors que maintenant, c'est vrai que quand on voit une femme trompettiste qui défrait un peu la chronique musicale aujourd'hui, tout ça semble totalement étonnant à beaucoup de gens. Et elles sont encore très peu, finalement, hein, à être connues en France. Je pense par exemple à R.L. Besson, qui est une excellente trompettiste française. Mais ça nous semble être nouveau, alors que non, c'est pas du tout nouveau. Et finalement, il n'y en a pas plus qu'au 18e. Et il y a quelque chose de vraiment affligeant, quoi, dramatique même, on pourrait le dire.
Oui, et surtout quand on pense, j'ai dit au départ que les femmes, elles sont à peu près 30% des membres d'un orchestre.
Et à l'époque.
Oui, non, aujourd'hui.
Ah, aujourd'hui, oui.
Aujourd'hui. 30%. Mais si on pense qu'au 18e siècle, les orchestres, ils étaient loin d'avoir le même nombre d'instrumentistes qu'on a aujourd'hui. Les orchestres du XVIIIe siècle étaient composés à peu près de entre 15 et 20 instrumentistes. Donc, sur 20 musiciens, si on a 3 femmes, on fait déjà le même
score.
Le même score, exactement. Et pour faire une petite comparaison, l'Orchestre philharmonique de Vienne, en 1991, comptait 150 musiciens, dont une femme, harpiste, qu'ils ont engagée après 26 ans de travail. Elle avait déjà travaillé avec eux pendant 26 ans. Jamais une harpiste engagée par l'orchestre. Et ils ont engagé faute de candidats masculins.
Merci beaucoup, Imira. Je vais m'adresser maintenant à Adrien Chiquet. Donc, Adrien, vous êtes conseiller artistique à l'ONDA. conseiller jazz et musique contemporaine. Alors aujourd'hui, d'après une étude, dans les équipes permanentes des structures de la Fédélima et du RIF, on ne compte que 12% de femmes programmatrices. Et un autre chiffre assez étonnant, dans le jazz, il n'y aurait que 8% de femmes chez les musiciens professionnels, dont seulement 4% d'instrumentistes. Alors vous-même, dans votre profession de conseiller artistique jazz, vous imposez une posture de distanciation critique vis-à-vis de votre travail. Et vous réfléchissez effectivement à tous ces codes, ces représentations sociales, ces schémas référents qui traversent l'évaluation des projets qui vous sont soumis. Vous accordez une attention particulière aux talents en émergence et aux nouvelles tendances. Et est-ce que vous pouvez nous parler de tous ces questionnements, justement, dans la recherche d'une certaine intégrité, on va dire, dans votre travail et voilà. Je crois que vous le direz mieux que moi.
Peut-être très rapidement, je rappelle ce que c'est l'ONDA en une phrase et demie. L'ONDA, c'est donc un organisme parapublic et entièrement financé par le ministère de la Culture. Il y a quelques financements satellites de la SACEM, de la SACD, ce genre d'organisme, mais vraiment l'essentiel, c'est le ministère de la Culture et c'est l'argent qu'on redistribue et l'argent du ministère de la Culture. Et dans le but d'aider la diffusion du spectacle vivant en France, des artistes français comme des artistes étrangers, mais en France. Donc pour ce faire, on est un peu un poste d'aiguillage entre les artistes d'un côté, les lieux de diffusion pour l'essentiel, en ce qui nous concerne, les lieux pluridisciplinaires, pas uniquement, mais pour l'essentiel. Et on essaie de faire en sorte que ces deux aspects de la chaîne se rencontrent au mieux pour le bien des artistes, essentiellement. Voilà ce qu'on fait. Donc, l'endroit auquel on agit, où on essaie d'agir, est précisément celui de la programmation. Et donc, c'est des questions qu'on se pose, peut-être pas tous, mais qu'on essaie de se poser en tout cas. En tout cas, moi, j'essaie de me les poser. On est plusieurs à le faire assez intensément à l'ONDA. Et en tout cas, pour moi, pour ma part, la question est vite remontée d'un cran, puisque au moment d'essayer de faire en sorte que les programmateurs et programmatrices programment plus de femmes musiciennes, en l'occurrence, pour ce qui me concerne, très rapidement, je me suis dit, mais qu'en est-il de toi, mon cher? Comment fais-tu ton repérage? Puisque, je sais pas, je vois à peu près un peu plus de 300 spectacles par an. Et j'ai commencé à me dire, mais comment moi, Voilà, il m'est paru évident à ce moment-là que, un, j'étais très mauvais, et deux, que c'était le premier pas essentiel dans l'affaire. Et donc, je pense que ça vaut pour les programmateurs et les programmatrices aussi. De faire le pas, donc d'aller repérer de façon sinon paritaire, en tout cas avec paritaire, c'est évidemment le but qu'il faut se fixer, mais en tout cas en conscience et de évidemment chaque soir il y a peut-être le choix entre 3 ou 4 ou 5 spectacles qu'on doit aller voir, qu'on pourrait aller voir, et d'avoir en conscience le fait que tel soir on va peut-être pas aller voir celui-ci qui aurait été notre penchant naturel, mais plutôt celui-là, parce qu'il va nous permettre d'ajouter à l'ensemble des choix qu'on pourra faire au moment de programmer une part féminine. Donc si on l'a pas au moment de programmer, on est sûr qu'on l'aura pas dans la programmation. Donc le premier pas, c'était celui-là. Et même si et le fait qu'il y ait des programmatrices de plus en plus, mais encore très peu nombreuses, vous le précisiez, n'est hélas en rien le gage d'une meilleure programmation plus féminine dans les scènes. C'est un peu mieux, mais enfin, l'aveuglement sur ces questions-là n'épargne pas les programmatrices ou les directrices. Mmh. Voilà. Donc, et dans un second temps, une fois que tout ça est fait, ensuite, il faut faire face à la phrase qui arrive souvent, en ce qui me concerne, de la part des responsables de programmation. Elle arrive souvent sur avec cette formule formidable. Je vais quand même pas programmer parce que c'est des femmes. Alors moi, généralement, je leur dis si. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il s'agit exactement de ça, de choisir. Et alors, très vite, je m'explique auprès d'eux, puisque évidemment, derrière ça se cache un truc qui ferait qu'évidemment, programmer des femmes, ce serait risquer une moins bonne programmation. C'est ça l'affaire en dessous. Et donc là, évidemment, je rejoins Héloïse tout à l'heure sur le fait que il suffit maintenant. Là, il faut sortir les listes, quoi. Et donc, les ressources type Madame Rapp, il y a sur Facebook, il y a aussi sur les musiques expérimentales, un groupe qui s'appelle Audible Women, qui recense de façon tout à fait systématique. Et chose importante, il me semble, sans aucun critère esthétique et de qualité. Il s'agit d'être exhaustif. Et je pense que c'est important que chacun, chaque personne qui est en charge d'endroits de pouvoir comme ça, donc à l'endroit de la programmation, c'est assez crucial, s'engage dans des recensements exhaustifs et non filtrés dans un premier temps. Le filtre s'applique après, au moment de programmer. On a évidemment, il y a des artistes qu'on a envie de programmer, d'autres pas. Il y en a qui font un travail de qualité, d'autres moins. Et voilà, mais c'est certainement pas réparti selon les genres des artistes. Le sexe des artistes concernés. So why, I, so why, so why, why, so why, I, so why, so why, why. Lahi kone bina kumasa Nebe sara la muzola Hatunu nya muzola Kula mogelema Ibe kono ta segena Kide mulo segena Kika nola mo abada Kataga la mola Ibo di la mola Kika noto notu abada Sa ah 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 So what So what So what Neni ndogo ni la mode nye Johnny nye la mode nye Fanta bata ni la mode nye Na umanya nema Kala mwenye ponye neduma la mokorodo U Johnny nye la mode nye Neni ndogo ni la mode nye Ni ulote ni bibolo Ikana dikata la mola Ide muzoma ni bibolo Ikana dikata la mola Denje mani bibolo Ikana dikata la mola Ovena ni ndo zoka siye Ovena ni sonjae Sa a a a a i So wa So wa wa So wa
d'écouter Fatoumata Diawara avec le titre Sowa. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Déclic sur FPP 106.3. On retrouve Natacha Leroux pour la fin de l'émission consacrée à la question des femmes dans la musique.
Merci. Donc, si dans le public vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à nos intervenants.
J'ai un constat un peu atroce en ce moment. Pourtant, je travaille pour un tourneur. qu'on retrouve... Enfin, tout le temps, en fait, les mêmes artistes dans les circuits de tournée, les circuits de programmation. Et j'ai un peu l'impression aussi que c'est lié au manque, en fait, et au manque de plus en plus d'économie qu'il y a dans la culture. Et du coup, est-ce que le problème aussi ne vient pas du fait que j'ai l'impression qu'on soutient de moins en moins, en fait, parce que ça fait prendre trop de risques, les artistes émergents? Et justement, les femmes se retrouvent principalement dans ces artistes émergents aujourd'hui. Et comment on les soutient pas, en fait?
Oui, c'est vrai qu'on peut dire qu'en France, ce qui est contraire finalement à toutes les logiques des politiques culturelles depuis Malraux, qui justement considérait que tout le monde avait le droit à la création et qu'au contraire, il fallait vraiment que l'innovation se dissémine socialement et qu'elle soit pas que le fait de quelques rares individus. Donc, je sais pas, Adrien, peut-être que...
Il y a une part qui est vraie, j'avais pas pensé à ça, le fait certainement qu'en partie c'est vrai et en même temps, je pense que ce serait vraiment... offrir une porte de sortie trop honorable au secteur que de lui accorder que c'est une question financière. Parce qu'évidemment, en ce moment, comme ça a tendance à être un peu tendu, ça offrirait vraiment une opportunité de s'en sortir avec les honneurs, genre, ah bah, c'est pas de notre faute, c'est parce qu'on n'a pas de sous. je sais que c'est pas ça que vous avez dit, mais en même temps, ça, je les connais, ils sont capables de se ruer sur cette excuse-là sans vergogne. Donc je pense qu'il y a un problème plus large, et on en parlait tout à l'heure un petit peu, qui est celui du repérage et celui de la curiosité qu'on a à vouloir aller chercher des choses. Et je pense que c'est avant tout ça le problème, sur le fait qu'on voit les mêmes partout. C'est qu'évidemment, construire une programmation avec des gens inconnus dedans, c'est un boulot autrement plus complexe. J'ai tendance à penser autrement plus passionnant, mais que d'aligner les têtes d'affiche. Alors, en réalité, il n'y a pas beaucoup de programmateurs ou de programmatrices qui alignent les têtes d'affiche. Voilà. Sauf qu'on on trouve quand même, il y a des standards, il y a des noms qu'on voit vraiment partout. Et surtout, on voit bien sur certaines programmations qu'il n'y a pas eu de quête d'originalité, de nouveauté, de soutien à des artistes locaux. Hein. Il y avait, je veux dire, ne serait-ce que ça. Soutenir les scènes locales, pour ma part, j'ai un peu quitté le champ des musiques amplifiées, je ne sais pas comment c'est, mais à l'époque où j'étais plus proche du terrain de programmation, le hip-hop était très sous-représenté dans les scènes de musique actuelle en France, y compris dans des scènes qui étaient installées dans des quartiers populaires où on peut imaginer que le hip-hop était pratiqué par les gens qui vivent là, au gré d'ateliers, en tout cas c'était la musique qui faisait culture dans ces endroits-là, il n'y avait pas de curiosité des programmateurs, etc., à cet égard-là. Et je pense que, y compris sur la question de la présence d'artistes féminines sur les scènes, je pense que c'est le premier critère, c'est bougez-vous, quoi. Allez en chercher, allez en découvrir. On pense tous ici, j'imagine, que si des gens qui font la programmation faisaient ça, ils auraient des chocs comme ils en ont avec d'autres artistes actuellement et qui finiraient potentiellement par les programmer, etc. C'est pas plus compliqué que ça. Et effectivement, c'est tendu financièrement, la prise de risque est moindre. Mais en même temps, voilà, la nouveauté, elle attire aussi les gens. Enfin, c'est, voilà, c'est tout un mécanisme qui actuellement fait que, en réalité, à part nous, en tant que public et les artistes, personne n'a d'intérêt à ce qu'il y ait de la prise de risque en vrai. Pour que les affaires tournent, en vrai, si on pouvait reproduire toujours la même chose et que ça pouvait être toujours la même chose qui se vend, ce serait formidable pour l'essentiel du reste du secteur que ce soit comme ça. Ce serait beaucoup moins fatigant. Donc y a un genre de reproduction du même tout le temps. Mais je pense que ce n'est pas financier avant tout. Je pense que c'est avant tout la flemmardise.
Bonsoir. J'avais une question peut-être autour des rappeuses, donc c'est peut-être pour Madame Rapp, je n'ai pas retenu votre prénom, je suis désolée.
Héloïse. Je ne suis pas Madame Rapp.
Voilà, vous n'êtes pas Madame Rapp. C'était sur la question du formatage et des rappeuses, je ne sais pas si parfois vous les questionnez ou vous les interviewez, mais je me demandais si finalement le côté subversif à la fois du genre musical et revendicatif souvent, et du genre féminin, est-ce qu'elle souhaite, elle, intégrer l'institution, passer par des schémas institutionnels, par des productions qui formatent aussi bien le texte que la durée, le type de musique, c'est-à-dire est-ce qu'elle souhaite accéder à ce type de choses-là dans ces conditions-là. Enfin, est-ce que parfois vous en parlez avec elle, enfin, est-ce qu'il y a... Voilà.
Je pense franchement qu'il y a de tout, comme chez les hommes. Il y en a qui ont envie de faire un rap plus populaire, grand public. Donc leur objectif, c'est vraiment d'être signé en major et voilà, d'être sur ce circuit-là. D'autres qui revendiquent, comme je pense à, par exemple à Kenny Arcana, qui a toujours revendiqué son côté d'être activiste avant d'être rappeuse et de revendiquer cette indépendance. Son côté altermondialiste, pour elle, a plus d'importance et de valeur que sa musique. Donc elle reste un peu underground, même si elle est quand même chez Because et tout. Enfin, c'est pas non plus... voilà, elle n'est pas autoproduite. Enfin. Mais en tout cas, c'est une vraie réflexion de sa part. Sinon, je pense que quand même, la plupart ont envie, au moins d'en vivre, parce que c'est aussi ça le problème, c'est que je pense que ça, c'est la différence, en tout cas, des retours qu'on a entre les pays anglo-saxons, notamment d'Europe du Nord et des États-Unis, même aussi l'Afrique du Sud et la France, c'est que là-bas, des rappeuses amatrices, entre guillemets, peuvent très bien vivre... pas bien, mais peuvent gagner de l'argent de leur rap. Parce que si elles font des petits concerts, elles ont toujours un petit cachet, il y a toujours moyen, voilà. Et en France, déjà, les scènes sont pas payées, en fait. Enfin, ça, c'est au-delà du rap, mais je veux dire, quand tu es amateur, voilà, c'est très difficile, surtout à Paris, dans des cafés-concerts, etc., dans des petites scènes comme ça, de se faire rémunérer. Donc ça les précarise et ça les garde aussi dans cette espèce de circuit où elles sont obligées d'avoir un deuxième boulot. Donc elles sont serveuses à côté. Donc parce qu'elles sont serveuses à côté, elles n'ont pas le temps de faire d'autres choses. Enfin voilà. C'est le... Et ça, enfin, moi j'avais vu quelques chiffres, mais qui dataient de, des années 90, où il y avait un sociologue qui s'appelle Karim Amou qui s'était intéressé à ça, à savoir est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes dans le rap qui gagnent leur vie, en fait. Et à l'époque, il y avait beaucoup plus d'hommes qui gagnaient bien leur vie, même s'il y avait aussi beaucoup de rappeurs précaires qui ne perçaient jamais, entre guillemets. Mais en tout cas, le chiffre était vraiment super important. C'était, je crois, il y avait un écart de 70% entre les hommes et les femmes. Mais après, on n'a pas accès non plus à ces choses-là. Je pense que vraiment, toutes celles qu'on a rencontrées, elles veulent juste subsister avec ce qu'elles font. Donc elles sont pas prêtes à, entre guillemets, à vendre leur âme au diable pour ça, mais juste un peu de reconnaissance, quoi. Et l'aspect financier fait partie quand même d'une forme de reconnaissance, de dire je te laisse faire ton art, voilà, comme tu le souhaites.
Je voulais savoir au niveau des intervenants, est-ce que vous seriez favorable à des quotas au niveau de la programmation, par exemple ?
Alors nous à HF, on parle pas de quotas, on parle d'objectifs chiffrés, c'est-à-dire que pour tendre à la parité, on souhaite mettre que, effectivement, il y ait des mesures gouvernementales qui incitent, d'incitation, donc de contraintes, pour atteindre des objectifs chiffrés qui seraient d'une augmentation de 5% en un an, donc de 15% sur 3 ans. Donc là, notre revendication à HF, ce serait celle-là. Bien évidemment, c'est pas la parité tout de suite et maintenant. Mais effectivement, tendre à la parité de manière objective et avec des leviers d'action, des vraies réflexions sur le secteur et les endroits où on peut changer les choses.
Moi, personnellement, je suis à fond pour. Je trouve que, encore une fois, c'est peut-être pas applicable à notre société parce qu'on n'est pas les États-Unis, on n'est pas l'Angleterre et qu'en tout cas, on n'est pas sur les mêmes bases. Notre société n'est pas construite sur les mêmes bases. Mais au bout d'un moment, si on est, excusez-moi, mais tellement débile pour en arriver là, enfin, je sais pas, c'est que on n'est pas capable par nous-mêmes de réfléchir et de s'offrir à nous-mêmes une société égalitaire à tous les niveaux. Bah, ouais, il faut qu'individuellement, en tant qu'entreprise, ou en tant que programmateur, ou en tant que voilà dirigeant, on y soit contraint, parce que sinon, c'est pas possible. Enfin, je trouve que j'ai l'impression que c'est l'échec de l'humanité, quoi, quelque part, de se dire voilà, on veut l'égalité, mais on n'est même pas capable de le faire, en fait. On est incapable de raisonner comme ça par nous-mêmes. Il faut que une instance extérieure vienne nous rappeler que c'est pas bien et que ça discrimine les gens. Donc oui, bah moi je suis pour, désolée. Je dis désolée parce que souvent c'est très mal perçu en France, mais j'assume complètement.
Je voulais juste rebondir là-dessus de façon très très concrète, ce qu'il faut pas oublier quand même. Enfin, ça c'est toujours un des arguments que j'aime bien utiliser. C'est qu'on parle quand même très souvent d'endroits qui sont subventionnés par l'État, donc subventionnés par les impôts. Et il me semble quand même que les femmes payent des impôts à même titre que les hommes. Donc non, mais ça fait rire. Mais d'une certaine manière, oui, l'argent public est censé être utilisé de façon égalitaire. Et voilà, je trouve pas du tout ça. Quand on parle, évidemment, les lieux privés, bon, là, c'est plus compliqué, on a moins de prise. Mais les lieux publics qui sont subventionnés, encore une fois, avec l'argent public, je pense qu'il y a un levier d'action qui doit forcément passer par des objectifs chiffrés, comme disait Natacha, et par un peu plus de pression. Parce que bon, on ne peut pas continuer à laisser courir comme ça, parce qu'il y en a ras-le-bol.
Et pour répondre à la question des quotas... pourquoi pas, mais à vrai dire, aujourd'hui, il n'y en aurait presque pas besoin. Il suffirait que toutes les institutions publiques répondent de leur cahier des charges, de leurs ce qu'on appelle des contrats d'objectifs, etc. Il y a des inspections, il y a des gens qui viennent voir ce que les gens font. Enfin, on peut mettre un quota si on veut. Généralement, les cahiers des charges des labellisations, en tout cas, sont plus flous que ça. On dit le directeur ou la directrice veillera à ce qu'une part égale soit accordée, machin. Enfin, tout ça. Mais il s'agirait qu'on tape du poing sur la table ensuite, quand on fait les inspections, quand on va contrôler le travail et l'usage de l'argent public, et que régulièrement il soit mis à une remarque, et qu'on demande des mesures. Voilà. Alors évidemment, une fois qu'on demande des mesures, peut-être que les quotas seront bien, mais théoriquement, en tout cas, on a ce qu'il faut pour le faire. Théoriquement, comme c'est des tutelles publiques, les tutelles publiques sont en mesure aujourd'hui de dire c'est pas possible, vous pouvez pas continuer. Voilà, En principe, ça devrait être possible, quoi. Mais bon.
Voilà, donc bah, écoutez, cette émission se termine. Merci d'y avoir assisté, d'y avoir participé.
Radio Déclic 106.3.